l'aspect oriental. J'irai plus totalement ce qui se
passe. Moi, c'est l'île de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonne fin de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Le 31 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée de l'épargne. C'est l'occasion pour les représentants des caisses d'épargne d'attirer l'attention de la population sur la nécessité d'épargner. En République démocratique du Congo, il est devenu de plus en plus fréquent des cas des institutions de microfinance déclarées en faillite aux grandes dames de leurs clients. Le dernier cas en date, la coopérative Imara à Goma, au Nord Kivu. Cette affaire relance donc en marge de cette célébration les débats sur les fonds de sécurité de l'épargne que la Banque centrale devrait mettre à la disposition des coopératives pour sécuriser les épargnants. Quelle est votre réaction? En direct pour participer à ces débats, rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous au 081 890 63 15. Jean-Noël Mokondo est à la technique. Faites Agili Bongonda assure la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous avons dans ce studio, avant d'ouvrir les standards pour accueillir vos points de vue, en tout cas, merci encore de votre fidélité, Monsieur Deyo Kanyangola, qui est dans notre studio, il est en fait responsable d'une coopérative, hein, c'est MEC Créco.
Je suis là en qualité de président de l'association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit du Congo.
Président de l'association des coopératives du Congo. Mais voilà, dans la conclusion, dans un résumé.
Président de l'association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit du Congo.
Alors pourquoi professionnel?
Professionnel parce qu'il s'agit d'un métier, n'est-ce pas? Et donc, ces coopératives ont senti le besoin de se retrouver dans une association qui peut les représenter, qui peut défendre leurs intérêts et qui peut les appuyer.
Alors aujourd'hui, c'est vrai, je l'ai dit tantôt, il est devenu de plus en plus fréquent des cas, des institutions, des microfinances déclarées en faillite aux grandes dames de leurs clients. C'est quoi le problème?
Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on puisse généraliser des cas particuliers. Dans ce cas-là, il y a eu quelques coopératives qui ont connu des problèmes. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont là et qui sont très bonnes. Alors nous, par exemple, à la Prosec, nous avons 139 membres. Donc nous avons beaucoup de coopératives de panier de crédit qui fonctionnent très bien. Maintenant, il y en a une ou deux qui ont eu des problèmes. Et dans l'opinion nationale, même internationale, on a l'impression que les coopératives ont toutes failli. Non, c'est quelques coopératives qui ont quelques problèmes et ces problèmes sont en train d'être résolus.
Mais ce qui est grave, les coopératives qui ont connu des problèmes ou qui sont déclarées en faillite, et ce ne sont pas les moindres. Nous pouvons citer Dutch International, on peut citer Imara, ce ne sont pas des petites coopératives.
Moi, je pense que, bon, on ne peut pas comparer.
Il y a quand même des Renault, des coopératives des Renault, des coopératives, quand même des icônes parmi des coopératives.
Tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses. Dutch n'a jamais été une coopérative d'épargne de crédit. C'était une institution qui était là, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle n'était pas.
Bon, un jeu de mots, une financière.
Non, elle n'était pas agréée par la Banque centrale.
C'était une banque.
Elle n'était pas agréée par la Banque centrale. La Banque centrale n'a jamais accepté le fonctionnement de Dutch Bank. Par contre, Imara, c'est vraiment notre membre. C'est une coopérative d'épargne et de crédit, connue de tout le monde, une de première d'ailleurs, une grande coopérative. Mais il faut savoir que coopérative, banque ou institution de microfinance, tout le monde, ça peut arriver. Il y a eu des faillites en Europe.
Comme toute entreprise, comme une société.
Il y a eu des faillites en Europe aussi. Donc ça peut arriver. Et quand ça arrive, ce n'est pas seulement parce qu'on a volé, etc. Non, peut-être ça peut être un problème de mauvais gestion, ça peut être un problème d'inattention, ça peut être beaucoup de problèmes. Et donc, je suis d'accord, j'assume pour Imara, c'est notre membre, nous tous nous connaissons les biens. D'ailleurs, moi j'ai connu la microfinance à travers Imara. je suis un membre des Himara moi-même en tant que président de la Prodec. Mmh. Maintenant, il y a eu des problèmes à Himara, mais je pense que les problèmes seront résolus.
Alors, mais aujourd'hui, le vrai problème, c'est comment sécuriser l'épargnant. Nous avons vu dans tous les cas de figure, que ce soit pour des banques, parce que vous avez dit, bon, vous lui avez l'électron libre, Himara, c'est votre membre, vous l'assumez, mais pourquoi seulement, quand il y a de tels cas qui se déclarent, on sent que c'est l'épargnant qui en pâtit. L'épargnant. Alors, pour sécuriser, faut-il à la banque centrale de sécuriser l'épargnant ou la coopérative elle-même peut aussi sécuriser l'épargnant?
En fait, la sécurisation de l'épargnant, c'est tout un arsenal. C'est aussi un processus. Aujourd'hui, bon, par exemple, avant-hier, j'ai fait un discours à l'échange,
à
l'unité, entre autres sujets qu'il fallait traiter, c'était comment protéger l'épargnant. Et nous avons dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, notamment toutes les lois qui ont été élaborées, promulguées, la loi sur la microfinance, n'est-ce pas, toutes les règles, hein, la réglementation qui a été mise en place.
Les bases légales, les bases juridiques.
Tout ça a été fait, n'est-ce pas. Et puis, quand on regarde, par exemple, tous les partenaires, ce qui les intéresse, c'est quoi? Il faut absolument un climat sain pour que tout le monde puisse
faire
un climat sain des affaires. Et c'est comme ça qu'on a mis en place, par exemple, l'association professionnelle de coopératives d'épargne et de crédit, l'association des institutions de microfinance. Tout ça, ce sont des instruments pour protéger l'épargnant, n'est-ce pas? Mais au-delà de ça, on a appuyé les centres de formation pour qu'on puisse donner la bonne information à tout professionnel de la microfinance. Mais même plus que ça, on a soutenu des cabinets d'audit, pour qu'il soit possible de contrôler. Aujourd'hui, il y a plusieurs coopératives, que je ne veux même pas citer ici, qui sont en train d'installer la gestion des risques, le contrôle interne, le contrôle externe. Donc, il y a un arsenal d'outils qui sont utilisés pour protéger l'épargnant, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous sommes arrivés, est-ce qu'on a tout fait? Non! C'est un processus.
Alors, autre outil pour protéger, sécuriser l'épargnant, c'est également ces fonds que devait disponibiliser, en tout cas, guillemets, la Banque centrale, ce que nous appelons les fonds
de
garantie. Alors, où en est-on aujourd'hui, à ces jours? Parce qu'il y a la loi réglementant le secteur bancaire et qui a été promulguée. Il y a tout un arsenal, comme vous l'avez dit, juridique, qui régente en fait les secteurs. Mais on a l'impression que entre les IMF, donc attendez par là les institutions des microfinances, ou encore les IFES, donc il y en a pas assez à l'RDC, il y a toujours cette difficulté, hein, cette collaboration qui souffre jusque-là entre la centrale et ces institutions.
Non.
Quand ça fait dossier des fonds,
c'est une réflexion. Je pense que la Banque centrale est en train de faire son travail. Il faut savoir que notre pays a chuté. Ici, un moment, on a même parlé à l'échangeur, et le PIB congolais était à 5 500 $ par habitant. On est descendu à 500 $ par habitant, donc on est descendu vraiment aux enfers. Aujourd'hui, on est en train de remonter tout doucement. Nous sommes en train d'apprendre le métier, nous sommes en train de nous consolider. Et même la Banque centrale aussi est en train de se consolider. Nous tous, nous sommes à l'école, n'est-ce pas? En train de nous conforter, de nous renforcer. La Banque centrale fait ce qu'elle peut. Les institutions font ce qu'elles peuvent,
mais
les
fonds de garantie sont-ils libérés?
J'y arrive, ce fonds de
garantie. La banque libère.
Non, au moment où nous parlons là, il y a des tractations autour de ce fonds-là.
Oui.
Le fonds va exister. Il existe
sur le plan théorique.
Non, pas du tout théorique. Il existe déjà tout un comité qui ne fait que ça. Travailler sur le fonds. Et le président de ce comité, c'est M. Ramazani de la Banque centrale.
Est-ce que vous pensez que si jamais un jour ces fonds sont libérés, ça pourrait vraiment protéger l'épargnant?
Ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Il y a plusieurs outils qu'il faut mettre en place pour que l'épargnant soit protégé. Et je pense qu'il y a un grand travail qui a été abattu et il faut le reconnaître. Maintenant, le commun des mortels, la population, elle n'a pas l'occasion d'apprendre. C'est pour ça qu'il y a des journées internationales de l'épargne, pour justement diffuser l'information, la bonne, dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font et que tout le monde, sans exception, est appelé à épargner.
081 890 7340 pour votre intervention en direct, si vous avez parfois des témoignages ou encore de points de vue à émettre par rapport à cette thématique relative à la journée internationale de l'épargne. Nous lançons les débats sur les fonds des garanties que doit mettre à la disposition des coopératives, donc la Banque centrale, et surtout par rapport à la loi, la nouvelle loi de bancaire, afin de pouvoir davantage sécuriser la population et inciter à donc la population à épargner. 081 890 6315 pour votre intervention directe, je le répète.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCathy.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radioCathy.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur RadioCathy.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, si vous nous rejoignez. Bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine de débat citoyen. Comme je l'ai dit tantôt, dans le cadre de la République démocratique du Congo, les services financiers de proximité sont offerts par les coopératives d'épargne et de crédit. Mais alors, à ces jours, c'est vrai, nous constatons quelques irrégularités. Nous avons suivi notre invité qui a reconnu tout de même qu'il y a des efforts qui sont menés par des coopératives pour arriver à sécuriser les épargnants, à les protéger, à protéger leur épargne. Mais il s'est fait que d'autres, par contre, qui évoluent, en tout cas d'autres coopératives, voulais-je dire, qui évoluent à l'électron libre et qui ne sont même pas encore reconnues par la Banque centrale, en font peut-être à l'abuse et au détriment peut-être des clients. Denis, vous êtes à Kalemi, Maurice Kailo à Kikwit. Merci Denis de participer à cette émission. Bonjour Denis.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour également à l'invité. Et d'ailleurs, je vous dis merci de m'avoir récupéré, c'est pour la première fois. Bon, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, je remarque aussi à Kalemi, il est vrai que les banques, les coopératives, les microfinances existent, mais les gens ont parfois honte d'aller se présenter dans ces banques ou encore ces coopératives. Pourquoi ils ont un peu honte de leur salaire indécent? Alors, pour cela, j'ai remarqué moi, ou encore s'il me faut déjà proposer quelques pistes de solutions, il faudrait que ces entreprises-là d'épargne, ces banques, ces microfinances, puissent se lancer dans des vastes campagnes de sensibilisation afin de montrer un peu le bien fondé ou encore les avantages que quelqu'un peut tirer en épargnant un peu l'argent à son compte ou encore, qu'est-ce qu'il peut gagner en soi et aussi demander également à ces micro-entreprises de ne pas s'aventurer. On en a vécu le cas une fois ici à Galerie ou une maison, avait lancé un peu les appels, les gens sont partis débiter leurs comptes, et au finish, ces propriétaires ont voyagé, et rien n'est intervenu pour un peu sauvegarder les intérêts du gens qui avait animé une très bonne foi de s'ouvrir un peu les comptes. Alors, je crois que c'est les peu un peu que je voulais contribuer à la thématique d'aujourd'hui.
Merci beaucoup. Vous avez évoqué les cas de gens qui ont parfois honte de pouvoir se présenter devant des coopératives suite à la modicité de leur salaire. Voilà, se présenter avec 15$ ou 20$ à la banque, on se sent peut-être gêné. Et alors, vous demandez par rapport à ces déficits de vulgarisation et de sensibilisation que les coopératives doubler un peu, passer à la vitesse supérieure pour réellement atteindre un grand nombre de la population pour leur expliquer l'importance de coopératives ou l'importance d'épargner. Parce que là, ça pourrait aider tant soit peu à pouvoir réduire ne plus que la pauvreté comme le demandent les objectifs du millénaire pour le développement. Merci Denis d'avoir appelé des Kalemi. Maurice, vous êtes à Kailo, à Kikwit. Pardon, Maurice, vous êtes à Kikwit dans le Bandundu. Bonjour.
Bonjour, bonjour à notre invité.
Bonjour. Vous avez la parole, Maurice.
Ok, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. J'ai suivi notre prédécesseur comme il vient de soulever les stations de l'épargne aujourd'hui. Mais nous constatons, à ce qui concerne notre épargne de la FDC, dans mes enquêtes personnelles, quand j'ai effectué les deux travaux des années antérieures, et qu'est-ce qu'elle est de moi, j'ai compris qu'il y a une situation de la pauvreté qui freine un peu l'épanouissement de la FDC. Mais c'est un cas aussi que le gouvernement puisse un peu soulever à ce point-là pour que lorsqu'on voulait maintenant épargner que les salaires et les choses des agents de l'État puissent être rémunérés en tout bon uniforme. Mais prenons un exemple. Les cadets aujourd'hui qui entrent des fonctionnaires, si vous constatez leur poste et puis leur position, qui est en train de lever sur les comptes, mais ça ne donne pas que l'État n'a plus donné à l'investissement. Mais je suis aussi que le premier ministre avait soulevé au niveau du Parlement quand il disait que dans cette année 2015 pour la finance, on pouvait quand même le restaurer au niveau du ménage. Mais en ce moment, ici, le PAN cause beaucoup de problèmes. Il y a des défis à lever. Plus de 70% des gens de la population congolaise, ils ont peur de la banque. Là, ils vont déposer leur argent à la banque. Est-ce que la banque va intéresser ça? C'est ça le premier point de départ que nous pouvons aussi se parler avec M. J.R. Je crois qu'on s'est d'abord parlé.
Voilà, Maurice, vous êtes encore en ligne. Voilà, si je comprends bien.
Encore en ligne.
Oui, allez-y. Terminez votre inquiétude.
Oui, l'inquiétude, ce n'est pas tellement des exposés que nous constatons. Le problème qui se pose, c'est là que la confiance que la population
peut avoir. Voilà,
oui, alors je vous écoute, monsieur.
Voilà, vous avez évoqué uniquement le cas de la confiance. Donc, la population n'a plus confiance aux banques.
Oui, la confiance de la population auprès de nos banques qui sont internes. Oui. Que ce soit les banques de dépôt ou les banques centrales qui est le maître des banques internes. Mm-hmm. Mais quand nous constatons un problème très majeur, pour que ce au niveau de la banque effectue la transaction, en tant que l'épargne a pu s'éteindre. Sur du point de vue des finances, nous trouvons toujours des enclosures ou des faillites et consorts. Je voulais qu'à ce point-là, M. Gior, notre invité qui est sur place au plateau, comment on peut restaurer, comment on peut parler de l'épargne aussi longtemps que la RDS sur ses agents propres, le salaire est minimum.
Voilà.
Parce que le pape pouvait donner justice à la RDS. À ce point-là, M. Gior.
Je crois que notre invité n'est pas la personne à indiquer pour expliquer un peu. Rapport salaire épargne, voilà, donc je crois qu'il n'est pas mieux placé, mais nous aurons à organiser quand même des émissions pour chercher l'équilibre entre les salaires et l'épargne avec les autorités qui ont la charge des finances de notre pays. Voilà, merci beaucoup. Alors si je comprends un peu votre inquiétude, nous avons des textes légaux et également des instructions de la Banque Centrale pour régir la famille des structures des financements des proximités. Je peux citer des cas de la loi 002 de 2002 du 10 février 2002 portant dispositions applicables au COPEC et la loi 003-2002 du 2 février 2002 relative à l'activité et du contrôle des établissements de crédit et enfin l'instruction numéro 1 aux IMF du 13 septembre 2003. Mais toutes ces lois ne produisent pas la confiance.
Très bien.
Voilà.
À ce qui concerne ce point, il s'agit de la rémunération, M. J.
Voilà, merci.
Nous intervenons sur la radio au Capri, c'est compte tenu de ce que nous constatons au niveau de l'épargne.
Voilà, merci beaucoup, Maurice. Bénin, vous êtes à Kinshasa. Merci d'accepter la participation à cette émission. Bénin, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Bénin. Vous avez suivi Maurice, c'est vrai qu'il faut parler malgré l'arsenal juridique. On a comme l'impression que la population n'a toujours pas confiance aux banques, parce que la Banque Centrale qui est censée, en fait, régir et contrôler, faire les contrôles, en tout cas, en bonne et due forme, c'est comme si, bon, abandonne les clients à leur successeur.
C'est un aspect important qu'il a évoqué, mais c'est un aspect que je voudrais moi m'appeler ici. Nous avons appris, messieurs les journalistes, que l'épargne est une mise à part de sa production, de ce que l'on gagne pour une consommation prochaine. Alors, pour épargner, il faut avoir un excédent dans sa consommation. Alors, le premier auditeur a parlé du salaire, mais je voudrais quand même un peu clarifier parce qu'il a un peu survolé. Nous avons beaucoup de chômeurs qui cherchent de revenus pour accéder à l'épargne. Nous avons aussi beaucoup de ceux qui sont en activité professionnelle qui déplorent leur salaire pour accéder aussi à l'épargne. Je pense que pour arriver à discuter sur l'épargne, la première des choses que ferait le pouvoir public plutôt, c'est de mettre la population congolaise au niveau d'accéder à l'épargne. Donc, je parle des salaires. Ceux qui travaillent d'abord sont en train d'être incapables d'épargner à cause du bas salaire. Alors, nous avons aussi des millions de chômeurs. Moi, je pense qu'il y a certaines discussions qui sont un peu appropriées dans d'autres pays où les histoires passent quand même moyennement acceptables, mais nous les abordons ici parce que nous sommes dans le contexte de la révolution de la modernité, ce qui n'est pas mal. Mais le préalable, c'est d'abord que la population soit en mesure d'épargner. Je vous donne un exemple, monsieur le journaliste. Quand vous donnez des sujets comme ça, il faut toujours réfléchir sur la masse populaire. Des sujets sur l'épargne comme ça, je ne suis pas sûr que vous avez même 30% de la population congolaise qui est intéressée, parce qu'on a l'impression que c'est une question de riches et consorts. Donc, je voudrais me résumer en disant que l'épargne, c'est bon, c'est bien beau. L'invité a évoqué des raisons. Même pour le profédit, quelqu'un qui n'a pas su d'où vient l'argent, on dit il y a une banque qui donne, une maman par exemple, qui n'a aucune notion sur la gestion de prix qu'elle gagne, elle prend l'argent, elle s'achète de pain, le même pain là, elle s'achète des masques, mais qu'on soit incapable de rendre de compte à l'éditeur. Alors, pour le moment, nous avons un problème sérieux, c'est d'abord d'apprendre à la population comment gérer les peu qu'ils gagnent dans les microcrédits là. Parce qu'il ne sert pas à, ça ne sert à rien, monsieur le journaliste, permettez-moi que je prenne un peu de temps.
Oui, allez-y rapidement, allez-y rapidement.
Ok. On s'adresse à une population qui est appauvrie d'abord matériellement et qui n'a pas des formations nécessaires, donc il y a une certaine pauvreté intellectuelle. Et à ce moment-là, l'environnement est malsain pour évoluer. Voilà un peu brièvement pour laisser la place aux autres. Le but de mon intervention.
Merci beaucoup, Béda. Monsieur Deyo, Katulania, c'est vrai, on va prendre cette première série des auditions. Votre réaction?
Bon, je suis très content parce que je me rends compte que les Congolais sont très intéressés par rapport à notre sujet. Ce sujet a deux volets, à mon avis. Il y a d'une part le fait qu'il faut protéger l'épargnant. Mais à les écouter, je sens qu'il y a un autre problème. Comment promouvoir l'épargne dans un contexte de pauvreté, dans un contexte où les fonctionnaires gagnent peu, dans un contexte où il y a des chômeurs qui cherchent de l'emploi. Et donc, c'est comme ça que je vais répondre. Notre ami dit, les gens ont peur d'aller, ils ont honte d'aller dans les institutions financières. Non, il ne faut pas avoir honte. Nous, ce que nous avons dit depuis avant-hier, à travers la journée internationale de l'épargne, c'est que bon, c'est facile pour un riche d'épargner, mais c'est plus intéressant pour un pauvre d'épargner parce qu'il n'a pas. Et donc, c'est un challenge, c'est une opportunité qui est donnée à tout le monde, les pauvres et les riches, même les chômeurs, de savoir qu'il y en a qui ont de l'argent mis de côté et qu'on peut épargner. C'est de cela que parle notre ami Bena. Ils ont de l'argent et nous leur demandons de ne pas le garder à la maison, d'amener cet argent dans une institution financière, parce que une fois cet argent dans l'institution financière, ça devient un autre argent. Cet argent a un nom. Cet argent appartient non seulement à M. Bena qui l'a amené, mais cet argent va maintenant appartenir à sa communauté, même au pays. C'est comme ça quand on dit par exemple le taux de bancarisation. C'est seulement le nombre de ceux qui ont des comptes. Donc si Bena ouvre un compte, n'importe dans n'importe quelle coopérative ou n'importe quelle institution de finance, eh bien, il est compté parmi ceux qui ont déjà des comptes. Et donc, il augmente déjà le nombre, en tout cas l'indicateur bancarisation du Congo. Et donc, c'est très important de comprendre que l'argent qu'on garde chez soi dans la maison, c'est un argent qui nous sert à nous-mêmes, alors que si on met cet argent dans une institution de microfinance, eh bien, cet argent devient un argent qui appartient à tout le monde, qui est utile. Et d'ailleurs, l'épargne est parmi les seules fonctions qui permettent de le faire comme ça. C'est-à-dire, vous avez votre argent, vous le mettez à disposition d'une institution financière. Désormais, l'institution financière commence à calculer que c'est son argent. Le pays calcule que c'est son argent, n'est-ce pas? Alors que ça continue à être votre argent. Il n'y a que l'épargne qui peut faire ça. Mais de l'épargne dans une institution financière. Et donc, aujourd'hui, nous venons pour dire tout le monde peut épargner. Même 1000 francs. Même 5000 francs.
Non, même un petit enfant, on peut épargner pour
son enfant. Mais on peut épargner pour son enfant. Et il faut comprendre que c'est justement celui qui n'en a pas qui doit faire un effort, qui doit se priver de certains plaisirs pour mobiliser un peu d'argent qu'il va aller épargner. Pourquoi? Parce que cet argent peut lui servir d'un levier. C'est levier, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous amenez dans une coopérative d'épargne de crédit ou dans une institution de microfinance, vous y amenez 1000 francs, 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, 4000 francs. À un certain moment, vous avez besoin d'investir. Lorsque vous allez demander de l'argent, vous demandez 10 fois plus. Donc c'est un levier. Ça vous a permis de multiplier votre argent par X. Et vous pouvez donc arriver à faire ce que vous ne pouvez pas faire avec votre propre montant là. Vous pouvez le faire parce que vous avez utilisé une institution financière. Donc il y a des avantages à utiliser les institutions financières. Maintenant, je reviens à la question de Maurice, où on parle de la protection, n'est-ce pas?
Oui.
Il faut protéger, justement. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées?
Que le peu qu'on gagne, c'est vrai, si on est convaincu pour épargner, on va épargner, mais finalement, on se rend compte que les patrons de la coopérative disparaissent dans la nature un jour, voilà, comme le cas qu'on vient de citer, ils disparaissent un jour sans crier gare, et puis bon, c'est au détriment des épargnants.
Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a des choses qui se font pour protéger l'épargnant? Bien sûr. Moi, la première chose que je peux dire aux gens, vous voulez épargner, n'épargnez pas dans une institution qui n'est pas reconnue par la Banque centrale. Parce qu'au moins, là, vous êtes sûr qu'il y a une supervision.
Comment les saurait-elle?
Vous demandez l'agrément. Demandez si vous avez l'agrément de la Banque centrale. Parce qu'au moins, vous savez que s'il y a problème, vous pouvez poser la question à la Banque centrale. N'est-ce pas? Moi, je viens de la Mécréco. La Banque centrale nous a demandé dernièrement de payer les gens des coopératives qui sont tombés en faillite, n'est-ce pas? Et ils sont venus prendre leur argent chez nous. Donc, la première condition, à mon avis, c'est est-ce que c'est une institution qui est réglementée? Est-ce qu'elle est agréée par la Banque centrale? Deuxièmement, vous pouvez vous-même observer comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a de la démocratie? Est-ce qu'on vous écoute? N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on vous prend? Parce qu'en fait, on dit les clients sont toujours
des coopératives qui sont locataires. Un matin, vous vous présentez, vous trouvez que bon, voilà, ils se sont délocalisés.
Il n'y a aucun mal à être locataire. Il n'y a pas de mal à être locataire. Une coopérative peut être locataire, n'est-ce pas? Mais ce qui est important, est-ce que elle parvient à gérer convenablement l'argent mis à ta disposition. C'est ça qu'il faut
évaluer. Donc, des gestions,
de gouvernance. Vous entrez dans une coopérative où le gérant, il fait la loi, et même, parce que quand on dit coopérative de panier de crédit, quand vous y entrez, vous-même vous devenez copropriétaire. Est-ce qu'on vous a dit que vous devenez copropriétaire? Est-ce qu'on vous laisse participer aux assemblées générales? Est-ce qu'il y a des assemblées générales? Est-ce que ces assemblées générales traitent des questions fondamentales? Donc, on peut soi-même se constituer quand même une batterie de critères pour identifier une bonne institution dans laquelle on va.
On va revenir à vous, Deyo Katumalia. Vous êtes président, comme vous l'avez dit, de l'association professionnelle des coopératives du Congo.
Oui.
Alors, on va repasser à nouveau de l'autre côté des standards pour accueillir d'autres interventions par rapport à cette thématique. 081-890-6315. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Radio Capi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien du gouvernement de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse. Parole aux auditeurs, J.R. Nguemo.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capi. Merci également à Albert Malot de Mbanzaboma qui, au fait, est en ligne. Albert, bonjour Albert.
Bonjour.
Alors, lorsque vous nous avez envoyé votre message sur notre page Facebook, vous avez dit que les Congolais n'ont pas tellement la culture d'épargne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bon, je suis à Mbanzaboma pour le travail, mais je vis à Kisantu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler.
Oui, Kisantu, c'est après, justement, quand on dépasse Kasangoulou, on avance un tout petit peu, non? Bon, voilà, je crois que c'est juste en montant qu'on peut retrouver Kisantu.
Oui, en avançant Mbanzaboma. Par exemple, dans ce milieu-là,
ouais.
Depuis que je suis là, il n'y a aucune banque. Ok? Allô?
Voilà, vous dites que à Kisantu, il n'y a aucune banque.
Il n'y a aucune banque, il n'y a que des coopératives qui sont. Mais les gens, ils trouvent qu'ils n'ont pas seulement la culture là, ils veulent passer à braquer l'argent chez eux, ce qui est plus dangereux. Ils ne connaissent pas qu'en intérieur comme ça, ils peuvent avoir beaucoup de comment dirais-je, beaucoup d'avantages.
Mm-hmm.
Bon, je suis un peu très content de ce système de bancarisation des salaires des agents de l'État parce que, à qui sont par exemple, n'ayant pas une banque, il y en a qui sont assurés dans la banque qui est à Mazangongo, par exemple. Ok?
Oui, allez-y.
Et pour les agents qui sont à Kisantu, il y a le TMB qui est là, qui vient avec une banque mobile payer les agents. Ok?
Mm-hmm.
Et avec ce système, moi je pense que c'est bien. Parce qu'il y en a qui peuvent économiser, il y en a qui peuvent solliciter le crédit et ils vont avoir ça. Donc là, c'est un avantage. Alors, pour d'autres agents, qui sont là, ils perçoivent leur argent via Tigo ou Vodacom.
Alors, merci beaucoup, Albert. Si je comprends bien, vous nous avez encore révélé qu'aujourd'hui, c'est vrai, le taux de bancarisation du pays est un peu faible. Vous avez donné le cas de Kisantu. Aujourd'hui, ce sont les coopératives qui, en fait, viennent en appui pour aider la population à accéder au crédit. Et bien voilà, mais à quel prix? Voilà, vous vous posez sans doute des questions. Bon, voilà, notre invité aussi pourrait nous éclairer là-dessus pour savoir un peu s'il y a quand même des coopératives qui sont gérées par les associations et qui sont contrôlés par la Banque Centrale pour éviter quand même quelques dérapages que nous constatons dans les secteurs. Albert, merci d'avoir appelé. Moïse, vous êtes la cité de l'UNA au Katanga. Bonjour Moïse.
Bonjour Radio Capi.
Vous avez la parole. Votre point de vue, Moïse.
Ok. Nous avions des difficultés à l'UNA concernant les problèmes de microfinance. À l'UNA, il n'y a pas de banque. Hein? Nous avons des entreprises qui ont des difficultés aussi à avoir l'argent. Il faut aller à Bukama, dans des magasins pour retirer quelques sommes d'argent. Donc, concernant les microfinances à l'UNA, les gens n'ont pas même cette culture-là d'avoir l'argent. Il n'y a même pas de banque. Voilà les difficultés que nous traversons à l'UNA.
Merci beaucoup Moïse, je crois que quand vous parlez de microfinance, il faudrait quand même qu'on puisse éclairer la lanterne des uns et des autres. Donc le terme microfinance fait référence donc à la prestation des services financiers, entre autres épargne, prêt, transfert d'argent au niveau national ou international, et même assurance aux personnes à faible revenu, qu'elles soient salariées ou travailleurs indépendants. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est vrai, nous constatons également que des services qui se font au niveau des transferts d'argent, qu'on a appelé communément des messageries financières. Il y a parmi elles qui se sont transformées aujourd'hui en banques. Alors, on ne sait pas comment ça fonctionne pour leur agrément. Bon, on saura un peu avec notre invité. Monsieur Deyou, est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer là-dessus avec l'intervention d'Albert et Moïse?
Il y avait l'intervention d'Albert et Moïse, mais il y avait Ben aussi qui voulait dire que le revenu, qu'il faut absolument avoir un bon revenu pour pouvoir épargner.
Mmh.
Ben, je voudrais vraiment dire qu'effectivement, il faut un revenu pour pouvoir épargner. Mais il ne faut pas surtout dire que les gagnants petits ne peuvent pas épargner. Il ne faut pas dire que les fonctionnaires ne peuvent pas épargner. C'est très faux. Tout le monde peut épargner. Même celui qui gagne 70 dollars par mois, même 50 dollars par mois, il parvient un jour à prendre une bière, n'est-ce pas? S'il en prend 3-4 par mois, ce qui lui est demandé aujourd'hui, c'est de faire des sacrifices pour n'en prendre que deux. Et il prend l'argent destiné à acheter ces deux bières, il met ça dans une institution financière. Et petit à petit, ça va lui constituer un levier. J'insiste, j'ai dit, si vous mettez de l'argent dans une institution financière, cet argent, ça vous constitue un levier pour vous. Donc, ça peut vous permettre de lever de l'argent. Si vous avez mis 10 dollars, multiplié par 10, ça fait quand même 100 dollars. 100 dollars, c'est toute une activité génératrice de revenus, n'est-ce pas? Donc, moi, je m'inscris en faux et j'ai dit, tout le monde peut épargner. Mais il y en a qui vont faire moins d'efforts parce qu'ils gagnent beaucoup et ils mettent beaucoup de côté. Et il y a d'autres qui doivent faire beaucoup plus d'efforts et ce sont eux, justement, qui ont besoin de l'épargne parce qu'ils n'ont rien. Même les chômeurs, n'est-ce pas? Vous allez voir votre oncle, il vous donne 30 dollars.
On peut épargner à la maison.
Non, 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 non.
On peut. Je sais pas, c'est une fausse évidence ou.
Oui,
mais aucun pense qu'on peut épargner à la maison.
On est obligé de épargner à la maison.
On a une petite caisse à la maison.
Nous tous, on doit épargner à la maison. C'est-à-dire qu'il y a l'argent quand même pour à manger, l'argent pour ceci. Mais je suis en train de plaider pour le fait que.
Il faut épargner à la coopérative.
Il faut tout faire pour mettre quelque chose dans une institution financière parce que cet argent-là, on l'a mis là-bas. Ça reste votre argent, mais ça va servir à beaucoup d'autres choses. Parce que même les pays peuvent le compter. Ça devient de l'argent qui a un visage, de l'argent utile à tout le monde. N'est-ce pas? C'est de l'argent qui sort de l'informel. Alors que ce que vous gardez à la maison, c'est de l'argent qui se trouve dans le noir. Vous êtes le seul à pouvoir en profiter. On voit des gens qui ont des millions qui gardent chez eux à la maison. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Alors que cet argent peut servir à tout le monde.
La thésaurisation de la monnaie.
Alors, donc, c'est ça que je voulais dire à Bena, mais je le descends maintenant par rapport à Albert. Albert commence par dire il manque une éducation financière. Il a raison. Nous venons de très loin. Ce pays est descendu aux enfers. Aujourd'hui, on est en train de remonter. Il y a un projet, n'est-ce pas, du gouvernement, de la Banque centrale, pour promouvoir l'éducation financière. D'ailleurs, les journées internationales de l'épargne, c'est dans ce cadre-là. C'est pour porter l'information à tout le monde, expliquer, dire que l'épargne, il n'y a rien de mieux pour un homme que d'épargner. C'est même un acte, moi j'ai dit que c'est un acte patriotique, n'est-ce pas? Parce que vous prenez votre argent, vous le mettez à la disposition des autres, pendant que vous n'en avez pas besoin, on peut l'utiliser pour ceux qui ont de bons projets, n'est-ce pas? Et les jours où vous aussi vous avez besoin, eux aussi auront remboursé, et vous pouvez avoir besoin à plus que ce que vous n'avez misé. Et donc, moi, je pense que c'est... arrêtons de parler des salaires. Notre pays a connu ce qu'il a connu. Il est en train de revenir tout doucement, n'est-ce pas? Et même l'épargne, c'est la même chose. L'autre jour, le DG de la Banque Centrale disait, il y a des calculs qui ont été faits pour montrer que, pour revenir à la situation que nous avions avant, lorsque le PIB était à 5 500 $ américains par Congolais, et bien il nous faut 20 ans. Donc, c'est un processus, nous sommes comme quelqu'un qui a été paralysé et à qui on réapprend à marcher. Et donc, par rapport à cela, les Congolais doivent comprendre, il faut arrêter de s'auto-flageller. C'est notre pays, il n'est pas seulement demandé. Pourquoi est-ce que tout le temps on dit les gouvernements, pourquoi on ne dit pas moi? Moi, qu'est-ce que je fais pour améliorer l'épargne? Moi, Deo Kasulanya, je suis un habitant congolais. Qu'est-ce que j'ai fait pour mettre mon argent à la disposition des autres, même si c'est 10 dollars? L'autre jour, je faisais un exemple et je disais, si 10 millions, parce que nous sommes à 70 millions, si 10 millions de gagnants petits épargnent chacun 10 dollars par an, ça fait combien? 100 millions de dollars. Avec 100 millions de dollars, nous pouvons lever 1 milliard de dollars. Mais est-ce qu'un milliard de dollars, ce n'est pas du costaud, ça? Ça permet de participer véritablement au développement du pays. Donc, ne dites pas qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous seulement. Dites-vous aussi qu'est-ce que vous allez faire pour que le pays puisse s'en sortir. Donc, c'est ce que je peux dire à Albert. Maintenant, il est resté notre ami Moïse de Louena. Lui, il est en train tout simplement de nous rappeler que la microfinance, les banques ne sont pas partout au Congo. Mais c'est normal, le pays est vaste. Nous avons l'avantage d'avoir un très gros pays. Il faut accepter que ça vienne tout doucement. Mais c'est bon de le dire.
Non, toutes les coopératives, plusieurs coopératives sont concentrées dans des villes. Nous savons que l'accessibilité dans les coins les plus reculés, quand vous êtes en province, je crois, il n'est pas un secret. Quand vous êtes à Kikwit, par exemple, pour aller à Nyoki, pour aller à Massimanima, c'est vraiment un parcours des combattants. Alors pourquoi les coopératives ne peuvent pas aller là-bas? Parce que là où la pauvreté est très prononcée.
Je vais répondre directement, c'est la technologie. Il faut innover. Il faut inventer de nouveaux procédés. Nous sommes un pays énorme, avec une population importante. C'est une richesse d'avoir 70 millions de Congolais. Mais nous, les institutions de microfinance, nous les banques, qu'est-ce que nous faisons pour apporter la bonne nouvelle, la capacité d'épargner à tous les Congolais? Il y a un travail à faire, et ce travail a commencé. Il y a déjà des produits adaptés aux gagnants petits. Donc, des produits qui permettent à ce que les gens qui gagnent le tout petit montant, qu'eux aussi puissent épargner. Mais pour y arriver, il va falloir innover. Il va falloir inventer de nouveaux procédés, mettre au-devant la technologie.
Oui, avant, on va découvrir quand même quelques auditeurs d'un moment à l'autre. Les temps pour nous de vous rappeler, chers auditeurs, si vous nous rejoignez, vous êtes bel et bien sur Radio Capi, la fréquence de la paix qui vous donne, en tout cas, l'occasion de débattre au cours de cette émission, votre magazine d'échange citoyen par rapport à la thématique relative à la journée internationale de l'épargne. 081 890 6315 pour votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiocapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Kiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiocapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci à Grace Mbambi, fidèle de Kindu, qui dit ceci: les Congolais éprouvent toujours d'énormes difficultés en ce qui concerne l'épargne d'argent dans les différentes coopératives. Moi, je souhaite que cette journée donne une prise de conscience à tout le monde. Si du moins on parle des faillites dans des coopératives d'épargne, cela est dû à plusieurs raisons. D'abord, ceux qui reçoivent les crédits ne remboursent pas, et s'ils remboursent, c'est avec un grand retard. Alors, comment une coopérative peut exister sans liquidité? Kambalengo Angé, Cyprien Assifué de Boutembo, l'épargne au Congo reste un défi, et alors un grand défi à relever, parce que les gens n'ont pas la culture d'épargne. J'ignore Balemba de Kisangani. Certaines épargnes nous ont rendu, en tout cas certaines coopératives nous ont rendu un mauvais service, et ils ont ouvert une petite banque comme Copec. Ils ont du mal à rembourser ou en fait à payer les dettes de leurs clients. Fils Makadi de Kananga, la culture bancaire n'est pas du tout démise en RDC, que cette journée inspire les Congolais à envie d'un esprit d'épargne pour notre vie. Loïc Kasereka de Beni, il est presque inutile d'épargner car on n'a pas confiance avec nos coopératives d'épargne et ne dispose pas des coffres forts électroniques car le pays n'est pas électrifié et garde toutes sortes de bandits. En RDC, évidemment, il y a quelques banques susceptibles d'organiser l'épargne. François Kanyama de Kinshasa. Pour moi, je pense qu'avec 96% de la population qui vit sans emploi fixe, il serait impossible qu'ils épargnent, laisser les vivre toujours au taux du jour, car le gouvernement ne pense plus à eux. Voilà, M. Deyo Katunania, les salaires ne répondent pas, les gens ne vivent pas avec un salaire fixe. Pourquoi ne pas seulement vivre comme ça au jour le jour? Parce que l'épargne, ça n'a pas de raison d'être.
Parce que nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Et que les hommes ont la capacité de réfléchir, de chercher et de trouver. Les Congolais ont montré sa capacité de survivre dans des conditions difficiles. Il ne faut pas lui demander, il ne faut pas nous dire de baisser les bras. Moi, je ne suis pas d'accord avec François Kanyama. Il ne faut pas dire ça. Les Congolais n'ont pas montré cet exemple. Les Congolais ont montré qu'ils sont capables de se battre. Même quand ça allait très mal, les Congolais s'en sont sortis. Aujourd'hui, on commence à sortir le nez de l'eau. C'est maintenant qu'il faut soutenir les Congolais. Même avec le peu qu'ils ont, créer des produits adaptés à ce qu'ils gagnent, le peu qu'ils gagnent, pour qu'ils puissent épargner. Et si on baisse les bras et qu'on ne veut pas le faire, alors à ce moment-là, c'est aller aux enfers et ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas une culture congolaise.
Alors aujourd'hui, avec votre association des professionnels, voilà, des coopératives du Congo, vous comptez au sein de cette association combien de coopératives?
Autour de 139.
139, à travers le pays.
Oui, oui.
À travers le pays. Des coopératives crédibles.
Des coopératives crédibles.
Agréées
par la Banque centrale, supervisées par la Banque centrale. Il y en a, mais 139 coopératives, c'est rien par rapport au Congo. Rappelez-vous que vers les années 1970, on était à 500 coopératives de famille de crédit dans ce pays. Donc, on est descendu trop bas. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui sont tombés en faillite, et d'autres que la Banque centrale a été obligée de fermer parce qu'elles ne répondaient plus du tout aux critères reconnus d'une coopérative d'épargne et de crédit. Et donc,
Tadeco, comment ça peut répondre du poids de la bête? Tadeco, parce qu'à un certain moment, on a vu Tadeco partout à travers le pays fermer. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'en ce moment-ci, on peut dire qu'ils ont repris du poids de la bête?
Carico, ce n'est pas une coopérative de femmes de cuivre, donc je ne suis pas autorisé à en parler.
Voilà.
Bon, je pense que c'est une bonne chose que Carico puisse reprendre, mais ce n'est pas une coopérative, donc je n'en parle pas. Par contre, il y a quelqu'un qui est intervenu et qui a dit une chose très intéressante. Il dit, il y a des gens qui prennent de l'argent dans les coopératives et qui ne veulent pas le remettre. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse continuer à vous donner des crédits? Ça, c'est très important. Ça, c'est de l'éducation financière. C'est-à-dire, nous devons expliquer aux gens que l'argent qu'ils viennent prendre sous forme de crédit dans les coopératives d'épargne de crédit, dans les institutions de microfinance, eh bien, c'est de l'argent des autres. Lorsqu'on dit qu'une coopérative ou une institution de microfinance a 10 millions, ce n'est pas son argent, c'est l'argent qui a été déposé par les autres. C'est la même chose pour les banques, n'est-ce pas? Sauf les banques, bon, les actionnaires,
les banques, c'est quelque chose.
Donc, si vous prenez un crédit et que vous ne remettez pas cet argent-là, eh bien, vous péchez contre l'épargne. Parce qu'en fait, un crédit, c'est quoi? C'est tout simplement une épargne forcée. Donc, vous avez 1000 dollars, vous avez 100 dollars, et vous voulez dépenser 1000 dollars. Vous allez vous demander le crédit, mais avec votre moyen de paiement, vous êtes capable de payer. Et donc, si vous ne remboursez pas, eh bien, il ne sera pas possible de donner aux autres. Et donc, moi, je pense que notre ami Grace Mbambi, il nous a fait avancer. Il nous dit, il faut continuer à éduquer les gens. Il faut que le Congo comprenne qu'on doit se soutenir, n'est-ce pas, la main dans la main. Lorsqu'on a très peu de moyens, comment on survit? Eh bien, on se met ensemble. Ce que je ne suis pas capable de faire tout seul, eh bien, je le fais grâce aux autres. Ce qui peut nous sauver, nous les Congolais. Mais c'est justement la solidarité. Alors, vous allez, vous prenez l'argent, vous ne remboursez pas. Mais là, comment est-ce que les autres vont s'en sortir? Comment on va payer les salaires, etc. Donc, ceci est très important. Et tout le monde est revenu. Je n'ai pas encore entendu un seul intervenant qui ne revient pas sur la culture de l'épargne. Tout le monde dit il faut une culture de l'épargne. Et même la Banque centrale dit il nous faut un projet sur l'éducation financière. Et donc, il faut que le gouvernement comprenne ce que ça a la préoccupation des Congolais.
Encore faut-il que la Banque centrale aussi mette à la disposition de ses coopératives, de ses banques, les fonds de garantie pour protéger réellement l'épargne.
Bon,
sinon, on reviendra encore sur ce qu'a dit le dernier auditeur là, et, par rapport à la confiance de nos banques. Parce que si aujourd'hui les coopératives n'ont plus, la population n'a plus confiance aux coopératives, la population n'a plus confiance aux banques, c'est parce qu'en cas de faillite ou en cas de problème, nous avons vu avec la banque congolaise qui est à côté derrière Radio Capi ici, aujourd'hui les épargnants continuent encore à faire la queue parce que la banque n'arrive pas à répondre, en tout cas à rembourser l'épargne des clients. Voilà, donc tous ces problèmes-là, je crois que ne pouvaient être résolus qu'avec ces fonds de garantie, parce que c'est là aujourd'hui les débats.
Mais
je
ne
vais pas nous voiler la
parole. Je suis d'accord avec vous que le fonds de garantie, c'est vraiment un élément très important dans l'ensemble de l'arsenal à mettre en place pour protéger l'épargnant.
Voilà.
Mais ce n'est pas le seul outil, j'ai insisté.
Il y a plusieurs autres outils, même un outil important.
C'est un outil complémentaire. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait encore aux journées internationales de l'épargne, dans la liste des outils qu'il faut mettre en place, dans l'arsenal des outils qu'il faut mettre en place, il faut le mettre en place après. Parce que le risque aussi, c'est quoi? Si on commence à dire qu'il faut absolument mettre en place des fonds de garantie, les gestions financières, puisque de dire, ok, ça va, chaque fois que je vais avoir un crédit qui traîne, je vais prendre là-bas. Vous comprenez? Par contre, si on met en place des mécanismes pour bien gérer ce qu'on doit faire, que la Banque centrale, qui est le gendarme, qui est notre gendarme du gouvernement pour protéger tout le monde, puisse mettre en place des mécanismes pour protéger effectivement.
Déjà, en un mot, on peut demander, en tout cas, la Banque centrale doit être un peu trop exigeante auprès de coopératives, surtout en ce qui concerne la constitution de leur capital minimum. Parce qu'il faudrait que ce soit quand même un capital important.
Sinon... Non, attention, Gérard. Mm. La coopérative de famille de crédit, c'est quoi?
C'est la coopération de, en fait, la
population. Non, c'est la population. C'est le législateur congolais qui a compris.
Il ne faut pas démarrer avec.
Le législateur congolais a compris que les banques ne peuvent pas arriver partout.
Mm.
Alors, il a donné aux Congolais la possibilité de se regrouper et de créer une institution qui est la coopérative d'épargne de crédit, et qui permet à ce qu'ils puissent faire des épargnes et qu'ils puissent distribuer des crédits. Donc, l'objectif n'est pas qu'ils constituent un fonds.
Bon.
Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que, savez-vous combien paye un membre d'une coopérative d'épargne de crédit pour en devenir propriétaire? 10 dollars.
10 dollars.
Oui, c'est 10 dollars. Donc, par rapport à la coopérative, c'est un problème de capital. Par rapport à la coopérative, c'est un problème de coopération. C'est un problème de gestion. C'est un problème de gouvernance. C'est un problème de bien gérer l'épargne que les gens vont amener, de leur donner des crédits, n'est-ce pas, et de s'assurer que tout ça tourne, n'est-ce pas. Mm-hmm. Ça, c'est par rapport à la coopérative des paniers crédits. Maintenant, ce que tu viens de dire est très intéressant par rapport à une institution de micro pénale, parce que c'est une société. Si cette société n'a pas assez de fonds, eh bien, et la Banque Centrale y a déjà pensé, elle existe 350 000 dollars pour ouvrir une institution de micro pénale. Pour ouvrir une institution de microfinance aujourd'hui, et qui fait l'épargne et les crédits, il faut avoir au moins dans sa judiciaire, au moins 350 000 dollars. Donc, avec 350 000 dollars, il faut faire du travail.
Alors, Samuel et Arsène, les deux auditeurs qui vont terminer ce débat du jour. Samuel, vous êtes à Bounia. Bonjour, Samuel.
Bonjour.
Oui, Samuel, vous avez la parole. Votre point de vue.
Voilà, j'aimerais bien savoir que le vidéo puisse nous éclaircir.
Alors, oui, Samuel, qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à cette journée? Comment ça se passe chez vous, la gestion des coopératives? Est-ce qu'au niveau de l'épargne, la population a cette culture? Est-ce que l'épargne est protégée? Voilà, toute cette question, vous, qu'est-ce que vous avez constaté avant que l'invité puisse répondre? Votre avis personnel.
Voilà. Voilà, nous qui sommes à Bounia, il y a certaines personnes qui s'étaient déjà cultivées. Bon, malheureusement, il y a par exemple les choses qu'on a imaginé ici à Bounia, a évolué à un moment donné, mais arrivé à un moment donné quelque part, bon, il y a, je ne sais pas, au niveau du marché mondial, je ne sais pas quoi, alors tout a été aboli. Bon. Sur ce, j'aimerais te savoir, si on a perdu sa carte de rendez-vous avec la banque, est-ce qu'il y a un moyen de grâce qui peut être porté à la portée des épargnants? C'est un. De deux, j'aimerais te savoir, si on a par exemple épargné 10 dollars, donc après combien de mois ou je ne sais pas de semaines, après combien de. Après quelle durée on peut avoir la capacité d'apprêter une somme quelconque. Pour terminer, j'aimerais te savoir, est-ce qu'il y a plus ou moins un pote là qui soit fidèle, vous venez vous épargner, et après une durée quelconque, vous venez vous ramassez le tout de votre compte. Merci.
Voilà, Arsène, vous êtes à Kikwit. Bonjour Arsène.
Bonjour monsieur.
Vous avez la parole.
Bon, moi je suis une prédécesseur. Je crois qu'il y a un problème très sérieux qui se pose au niveau de la population. Moi, j'ai grandi dans cette histoire d'épargne. Nous étions encore enfants quand la caisse d'épargne passait et retirait à chaque instant un yukuta ou deux makuta d'épargne. Et la finalité de cette histoire-là, quand nous sommes rentrés pour essayer de voir qu'est-ce que nous avons épargné pendant des dizaines d'années, c'était la Cadeco ou la Cadeza de l'époque qui était en faillite.
La Cadeco aujourd'hui.
Ok, Cadeco aujourd'hui. Mais le problème se pose, comment regagner la confiance de la population? Ça c'est de un. De deux, comment les banques ou les coopératives doivent faire confiance à ceux à qui elles empruntent de l'argent? Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un épargne, à première vue, elle pense déjà obtenir un crédit dans 10, 15 jours, comme disait, ou peut-être dans 2, 3 ans, comme disait mon prédécesseur. Donc, le problème se pose au niveau de la confiance mutuelle entre les épargnants et les banques. C'est là où nous devons travailler. Les institutions qui sont en train de mettre la loi pour les épargnes ne peuvent pas se limiter au niveau des lois. On sait très bien qu'au Congo, on ne respecte pas les lois. On ne se fait pas confiance entre nous. Donc, il faut d'abord que la confiance vienne du côté des coopératives et des banques. Ils doivent d'abord rassurer la population. Et ça, ce n'est pas un travail de faire du jour au lendemain. C'est un grand travail. Nous avons perdu la confiance. Moi, par exemple, qui vous parle, j'ai perdu cette confiance depuis des années, plus de 40 ans que j'ai perdu cette confiance. Mais je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Et au cas où j'ai confiance, je n'aurai pas les difficultés pour aller épargner et voir l'avenir.
Voilà ce que j'avais dit. Merci beaucoup, Arsène, Déo Katulania.
Merci. Je suis très content de la contribution d'Arsène. On sent que c'est quelqu'un qui a eu vraiment un contact avec ce monde financier. Et je suis d'accord avec Arsène, à 100%. Arsène, il doit s'établir une relation, n'est-ce pas, entre la population et leur institution financière. Quand il s'agit d'une coopérative d'épargne de crédit, il faut savoir que quand vous allez vers une coopérative d'épargne de crédit, vous en devenez copropriétaire, vous ne restez pas seulement membre. C'est la différence, et c'est pour ça que je n'ai pas toujours pensé que c'est une institution qui est appropriée à la situation du Congo, un pays vaste, avec peu d'infrastructures, etc. Et donc, il faut arriver à créer la première confiance, celle de l'individu qui va vers son institution financière, lui faisant confiance, lui apportant son épargne. Maintenant, la deuxième confiance, c'est qu'il faut que l'institution financière fasse confiance à son membre, à son client, n'est-ce pas, dans le cas d'une IMS, pour justement bien gérer cet argent, n'est-ce pas, à travers la sécurisation et tout ça. C'est comme ça qu'on va permettre à celui-là de continuer à amener de l'épargne parce qu'il a fait confiance. Et une fois ceci obtenu, n'est-ce pas, aller même jusqu'à lui donner un crédit sur base de la relation qui existe entre les deux. Donc, l'épargne, c'est une question de confiance, mais double confiance. De l'épargnant vers son institution financière, mais de l'institution financière vers l'épargnant. Et c'est une relation qui doit durer, qui doit rester longtemps, parce qu'elle finit par permettre à chacun d'en sortir gagnant. Parce que l'épargnant, lorsqu'il a déposé son argent dans l'institution financière, eh bien, il a la possibilité de lever de l'argent. L'institution financière qui a reçu un bon épargnant, eh bien, c'est quelqu'un sur qui on peut désormais compter. Ça signifie que demain, lorsqu'il vient demander un crédit, ben, on va lui donner, pas en fermant les yeux, mais comme si, n'est-ce pas? Parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, on a suivi ses habitudes, etc. Et donc, par rapport à ce que Hassan a dit, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que nous sommes en train de dire la priorité des priorités aujourd'hui dans ce pays, c'est l'éducation financière.
Monsieur Deyo Katunania, vous êtes président de l'association professionnelle de coopérative au Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout d'avoir passé ces 57 minutes interactives avec les auditeurs et surtout d'avoir orienté les préoccupations des uns et des autres. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Voilà, c'est par cette thématique que nous bouclons la semaine, en tout cas le débat de la semaine avec vous. Merci à vous tous qui avez participé à ces émissions que nous avons pu réaliser durant cette semaine. Nous prenons rendez-vous avec vous en début de la semaine prochaine pour un autre débat dans Parole aux auditeurs. Merci à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en œuvre de ce programme réalisé par Julie Peza Bongonda, une émission coordonnée et présentée par Julien Louguembo. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi. Thank you.